La légende raconte qu'au XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II ordonna une expérience destinée à déterminer la langue originelle de l'être humain. Afin d'y parvenir, un groupe de nouveau-nés fut élevé par des nourrices, qui avaient pour consigne de ne jamais leur adresser la parole. L'idée reposait sur le fait que les enfants, ainsi distants de toute influence extérieure, se mettraient à parler leur langue la plus naturelle. Parleraient-ils l'hébreu, l'arabe, le grec ou le latin ? Parleraient-ils la langue de leurs parents ? La nature a doté ces êtres de ce que l'on appelle les vocalisations instinctives, lorsque le chien aboie, lorsque le cobra siffle, lorsque l'oiseau chante. Ces comportements sociaux, destinés à permettre une coordination de l'agent et du collectif, ne sont pas des aptitudes acquises. La maîtrise de ces vocalisations n'est pas réalisée par chaque individu au cours de son existence propre, mais par des génomes entiers, génération après génération. Il en est de même pour le saumon qui remonte la rivière et pour l'oie qui migre en hiver. Le rire, chez l'être humain, est l'un de ses comportements programmés. Pré-linguistique, le rire est un réflexe troublant. Étranger à nous-mêmes, il est pourtant bien inscrit dans la gorge et dans toutes les cultures humaines. Cet excès de souffle, ce grognement involontaire, n'est pas quelque chose que l'on décide. C'est le rire qui nous secoue. Il est un signal sonore pour informer autrui, pour le rassurer. Rassurer celui qui l'aimait et pacifier les échanges sociaux. Le rire diffère de l'acquisition du langage qui procède d'abord par l'exercice des lallations chez les nouveau-nés. La langue est transmise, confiée, par imitation de l'adulte à l'enfant, du professeur à l'élève. Elle est une appropriation. Les langues prolifèrent par contamination d'un corps à l'autre. Elles évoluent par tiges et flux souterrains, le long des vallées fluviales ou des lignes de chemin de fer. Elles se déplacent par taches d'huile. Elles se territorialisent en dialecte, procédant par degrés et variations. Toute langue est un phénomène dynamique, distribué et historique, en devenir permanent. Cette qualité du vocabulaire, celle de pouvoir composer un nombre incommensurable de phrases sur la base d'un nombre fini de mots, est une capacité conquise qui s'est constituée progressivement. Les adjectifs, les adverbes, les prépositions furent de nouvelles classes d'éléments générés par contraintes et transformations. Les premiers termes, monolithiques et iconiques, n'avaient aucune vocation combinatoire. La probabilité de co-occurrence de ces termes monolithiques était égale. Au fil du temps, cette équiprobabilité a lentement fléchi, évolué, permettant les altérations nécessaires à l'accélération des compétences associatives des mots. L'ontogenèse du langage chez l'enfant réemprunte la phylogénétique des langues. C'est ici reconnaître que, si pour comprendre le phénomène du langage comme une entité historique, s'il faut l'étudier hors corps, s'il faut l'entreprendre du dehors, c'est aussi ce corps, le nôtre, qui lui donne naissance et l'abrite. Il existe deux sphères langagières au sein du cerveau, une par hémisphère. Deux émetteurs de paroles humaines possibles. Une constitution neurologique archaïque qui serait la source des hallucinations auditives, de la schizophrénie, et la trace d'un stade de développement préconscient dans l'histoire et la préhistoire humaine. Jusque très récemment, comme dans l'Iliade et l'Odyssée, Les décisions des personnages furent dictées par des voix référençant des figures parentales et autoritaires. C'est ainsi que les dieux, sous la forme de commandes perçues par l'entendement, donnaient une existence tangible à des organisations récurrentes du système nerveux central. Ces fantômes qui parlaient à leur hôte esquissèrent les premiers contours d'une langue parasite ou d'une association définitive entre le langage et l'humain, interdépendants l'un avec l'autre. Deux faces d'une même pièce, le langage et les caractéristiques cognitives humaines débutèrent à faire symbiose. Langage et cognition coévoluèrent de concert. Une nouvelle variante hominidée, habitée par le langage articulé, était en train de se former.
Les langues témoignent de la condition des corps qui leur donnent siège. Cette inscription corporelle de l'esprit se déploie dans les métaphores qui segmentent nos conversations. Traduire nos expériences en termes d'objets clos et de substances octroie la possibilité de redessiner ainsi les éléments de cette expérience et de les traiter comme des entités discrètes ou des substances uniformes. Nous imposons aux phénomènes physiques des limites artificielles qui les rendent tout aussi caractérisés que nous. Nous en faisons des entités limitées par une surface, avec un nom, avec des bords, comme les bords de notre propre corps, comme les bords de la peau. Il en est ainsi des montagnes et des coins de rue. La métaphore prend source dans notre corps, son orientation, ses membranes, ses dimensions. Elle est un produit de la chair. Elle est un hybride du corps et de la langue. Elle est constitutive de notre pensée et de notre représentation du monde. La métaphore, cette capacité de comprendre une expérience sensible en la substituant par une autre, est un sens qui s'ajoute à la vue, à l'ouïe, au toucher. Lorsque ce corps n'est plus suffisant pour contenir l'expérience, les souvenirs et les mots, le métabolisme s'étend. En lieu et place de l'esprit, c'est la motricité pure qui sert de support mémoriel. Je suis bien incapable de décrire la technique japonaise avec laquelle je plie le linge. Je peux le faire, mais je ne peux pas le dire. Je suis bien incapable de localiser la moindre touche du clavier que j'utilise chaque jour. L'écriture physique fut inventée pour servir de support à ce que la mémoire biologique ne parvenait plus à retenir mentalement. L'écriture tenait registre des biens des premiers empires, car le nombre des denrées était si grand qu'il excédait les possibilités de s'en souvenir. On imposa donc alors des marques sur des supports distincts de nos corps. Les premiers systèmes furent analogiques. À chaque symbole correspondait un objet. Mimétique également. Le signe chinois qui désignait l'homme était une silhouette bipède. Au sein d'un organisme étendu, des artefacts tiennent le rôle physiologique d'organes classiques. Matière et information s'échangent plus efficacement entre l'organisme et son environnement. La cognition déploie son effort littéralement jusque dans les objets que l'on active par le biais de dispositifs de couplage entre l'intérieur et l'extérieur des corps. Le boulier devient la condition technique du calcul. Le crayon devient le vecteur nécessaire pour réfléchir. La lettre du Scrabble glisse sur son support pour composer les mots. Le bloc de Tetris tourne sur lui-même pour choisir l'orientation correcte. Chez l'araignée, toiles et facultés cognitives tissent un corps augmenté. La toile même est d'ordre significatif. Elle devient mise en œuvre de la signification proie. Elle est une copie fidèle de la mouche. Son incantation, une adresse. Le mouvement qui concerne cette lettre est double. D'une part, le corps humain semble être un milieu favorable pour l'existence du langage, les conditions de sa conservation, et un moyen de sa reproduction. D'autre part, le langage envisagé comme un parasite aurait pour vocation, comme toute formation du vivant, de s'employer à continuer d'exister, par propagation, dans l'abondance et l'excès. Tout aussi simplement qu'un bâillement se déplace et traverse la foule par mimétisme, de proche en proche, le langage serait un phénomène qui traverse l'humain, mais qui n'en dépend pas. Ce n'est pas l'individu qui contient le bâillement, mais bien le bâillement qui contient la foule. Un bâillement, dont les bâillements ne sont que les expressions locales transientes d'un tout plus large. Façonné par la dynamique évolutive, le langage émerge de sa condition biologique, et nous ne savons pas encore qu'il s'en sépare, aujourd'hui même, pour devenir autonome. Nous ne le savons pas, car ce mouvement est en cours, comme tout procès long qui excède la durée de vie de la personne et des sociétés humaines. Le langage, le verbe, l'esprit, est un autre que nous. Il est une nouvelle espèce. À la manière d'un tourbillon qui se forme dans le courant d'une rivière, stable et discret, suffisamment persistant au fil des siècles pour que l'on trouve son nom sur les cartes, le langage est à la fois pleine continuité de la matière et dans le même temps un lieu causal original de possible. Il est quelque chose qui n'est pas ce dont il hérite et se forge. Quelque chose qui s'enfuit et qui nous quitte. Quelque chose qui ressurgit peut-être à l'instant, déjà, là où s'entremêlent les eaux du Niagara.